Est-ce que vous aimez la parole de Dieu?
Oui.
Oui.
Amen.
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 Alléluia. Matthieu, chapitre 25, versets 1 à 13. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges, qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges arrivèrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Mais il répondit « Je vous le dis, en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. » 5 vierges folles, puis 5 vierges sages. Il y a une différence remarquable entre ces deux sortes de vierges qui sont l'image des chrétiens de l'Église aujourd'hui. C'est qu'une avait pris de l'huile avec leur lampe, puis l'autre n'avait pas pris d'huile. Pourquoi qu'il n'y avait pas d'huile, les folles, les vierges folles? C'est simple. Il n'y avait pas le temps de prendre de l'huile. Il n'y avait pas le temps, c'était... La vie est trop vite, la vie est trop rapide. Il n'y avait pas le temps de s'arrêter pour prendre de l'huile. Parce que l'huile, ça représente le Saint-Esprit. L'huile, ça représente un arrêt, qu'on s'arrête devant Dieu pour recevoir, pour prier, pour venir dans sa présence et recevoir sa présence, recevoir sa direction, recevoir sa sagesse. C'est ça l'huile. Mais il faut prendre le temps. Puis les folles, il n'y avait pas de temps pour Dieu. Il y avait trop de choses à faire, trop de choses intéressantes à faire. Leur vie était chargée, il y avait des études à faire, du travail, il y avait une famille à prendre soin. Il y avait toutes sortes de choses à faire, mais il n'y avait pas de temps pour Dieu. Puis ça ressemble à l'Église aujourd'hui. Pas de temps pour Dieu. C'est comme si Dieu il cogne à la porte. Mais non, je n'ai pas de temps pour toi, Seigneur. Il y a une image ici, parce que Dieu, Jésus, est en train de dire, un jour, si vous ne prenez pas de temps pour moi, vous allez cogner à la porte, puis je vais dire, non, merci, salut, je ne vous connais pas. C'est très sérieux devant Dieu, parce que Dieu est amour. Dieu, il cogne à la porte, puis dit, prends du temps avec moi. Parce qu'il sait qu'un jour, la porte va être fermée. On l'a vu, on l'a lu. Puis là, non. Le Seigneur dit, je ne vous connais pas. J'ai cogné à la porte, vous n'avez pas répondu. Maintenant, c'est vous autres qui cognez, puis il n'y a pas de réponse. Ça, c'est sérieux. C'est un avertissement pour nous, chrétiens. Parce que on ne peut pas faire semblant d'être chrétien, suivre Jésus, aller à l'église le dimanche, puis penser qu'on est agréable à Dieu. Dieu est amour. Dieu est un être spirituel, est une personne. Puis, Dieu, son premier commandement qu'il a donné, c'est « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces. » Ça, c'est son commandement. Avez-vous déjà pensé à ça, que pour aimer quelqu'un de tout son cœur, je ne sais pas si vous avez déjà aimé quelqu'un de tout votre cœur, Moi-même, je suis pas sûr que j'ai déjà aimé quelqu'un de tout mon cœur. C'est quelque chose de grand, ça, là. C'est pas une petite affaire que Dieu demande. De tout son cœur. Je suis sûr qu'un mari et une femme, ils peuvent même pas dire qu'on s'aime de tout son cœur, de toute son âme, de toutes ses forces. Hey, c'est quelque chose, ça, là. Pourtant, Dieu nous demande ça. Il nous demande-tu l'impossible? S'il nous demanderait l'impossible, il n'y a personne qui serait sauvé parce que là, ça ne marche pas. Si c'est impossible de faire ça, tu ne peux pas être sauvé si tu ne peux pas faire ça. Mais pourquoi Dieu nous demande une affaire qui est si difficile, si dure? Aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force. Ça n'a pas d'allure. C'est impossible à faire, ça, humainement parlant. Mais pourquoi Dieu demande quelque chose d'aussi dur que ça? D'aussi épouvantable que ça, de l'aimer de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force. Savez-vous pourquoi? Pourquoi Dieu demande ça? C'est parce que lui, il nous aime de tout son cœur, de toute son âme et de toutes ses forces. Dieu nous aime de tout son cœur, de toute son âme, puis de toutes ses forces. C'est pour ça qu'il demande ça. Puis il l'a prouvé. Quand il est allé à la croix, quand Jésus est allé à la croix, il a versé son sang jusqu'à la dernière goutte. Il a épuisé ses forces jusqu'au complet. Il est allé jusqu'à la mort. Il n'était pas obligé de faire ça. Jésus n'avait pas de péché. Il n'avait pas besoin d'aller mourir pour lui-même. C'est pour des coupables comme nous, comme vous et moi, qu'il est mort. C'est parce qu'il nous aimait de tout son cœur, de toute son âme, de toutes ses forces. Il n'y a aucun amour qui est semblable à ça sur terre. Puis cet amour-là est si grand que lorsqu'on s'arrête à ça, pourquoi Jésus est allé à la croix? Pourquoi qu'il fallait qu'il aille à la croix? Nos péchés, il a subi 100 coups, 40 coups de fouet moins un. Pensez-y, les coups de fouet qu'il a subis là, c'était pas à cause de ses péchés à lui. Il n'y avait pas de péché, il n'y avait rien à se reprocher, Jésus. C'était à cause de nos péchés, de mes péchés, de nos péchés à chacun. Les châtiments qu'il a eu sur lui, il subissait notre châtiment. La peine qu'il a subie, il subissait notre peine. Vous savez, ça dit dans Romains, ça dit que le salaire du péché, c'est la mort. Romains, chapitre 6, verset 23. Le salaire du péché, c'est la mort. Donc, le résultat de notre péché, c'est la mort. Mais pas juste la mort physique. Le mot mort, ça veut dire séparation. Séparé éternellement d'avec Dieu. Dieu est amour, puis à cause du péché, c'est une séparation éternelle d'avec Dieu qui est amour. Vous savez, s'il n'y a pas d'amour sur terre, il n'y a pas de vie, puis il n'y a rien qui peut subsister. En enfer, il n'y a pas d'amour, mais c'est un lieu terrible aussi. Il y a un homme qui est allé au deuxième ciel, là où est le royaume des démons, et cet homme-là, quand il est allé là, il s'est senti tellement mal, il était emporté par un ange, puis l'ange l'a emmené visiter ce royaume-là. Il se sentait mal, il ne savait pas pourquoi il se sentait mal. Mais l'ange lui a dit, c'est parce qu'ici, dans ce royaume-là, il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour, il n'y a personne qui aime l'autre. Il y a des serviteurs, parce qu'ils sont tous soumis au diable, parce que c'est le diable leur chef. Ils font leur job, mais il n'y a pas d'amour. C'est pas un Dieu à rester ou qu'il n'y a pas d'amour. Quand il n'y a pas d'amour, c'est même pas vivable. Mais Dieu est amour. Dieu nous aime. Il a envoyé Jésus mourir sur la croix pour nous autres. Puis, le commandement qu'il nous a donné de l'aimer de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, c'est seulement possible le jour où l'on réalise combien il nous a aimés. Savez-moi, à l'âge de 18 ans, J'étais comme tous les jeunes de mon âge, il y avait des péchés dans ma vie. Mais quand j'ai donné ma vie à Jésus, Jésus ne m'a pas pointé un péché, des petits péchés comme ça. Il a pointé un péché dans ma vie. Puis le péché qu'il m'a pointé, c'est qu'il m'a dit, tu as vécu comme si j'existais pas. Tu as vécu toute ta vie pour toi, tout ton temps juste à toi. Puis moi, j'étais ton père, je t'aimais, puis j'avais aucune place dans ta vie. Aucune place. Puis quand Dieu m'a montré ça, quand Dieu m'a montré son amour, à quel point qu'il m'aimait, mais à quel point moi, je ne l'avais pas aimé, ça m'a fait assez mal. C'est comme s'il m'avait transpercé le cœur directement. Parce que là, je voyais que je ne l'avais pas aimé, que je l'avais négligé, que j'avais vécu toute ma vie comme s'il n'existait pas. Puis ça m'a tellement fait mal, j'ai tellement pleuré parce que là, j'étais comme, hey, moi, j'étais un bon chrétien, supposément. J'étais un bon gars, supposément. Mais là, Dieu venait me dire en personne son amour. C'est comme si là, il m'avait saisi, puis là, il me montrait combien que lui, il m'aimait. Il m'arrêtait. Mais en même temps qu'il m'a montré à quel point qu'il m'aimait, en même temps, il m'a montré à quel point moi je ne l'avais pas aimé. À quel point moi j'avais vécu toute ma vie juste pour moi. Puis que lui, je m'en foutais. C'était juste le dimanche matin, j'allais à l'église, j'étais catholique, j'allais à l'église. Mais je ne l'aimais pas. Je n'avais aucun amour pour Dieu. Parce que Dieu demandait de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force, de l'aimer de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force. Ça veut dire de l'aimer plus que n'importe quel humain. Parce que tu ne peux même pas aimer un humain de toute ton âme, de toute ta force, de tout ton cœur. C'est même pas possible. L'amour que Dieu nous demande en retour, c'est plus que n'importe qui d'autre. C'est pas pour rien que Jésus a dit, si tu ne me préfères pas à ton père, ta mère, ta femme, tes frères, ta soeur, etc., tu ne peux pas être mon disciple. Tu n'es pas un chrétien. L'amour que Dieu a pour nous autres est tellement grand que quand il se révèle à nous, quand il nous touche, c'est automatique. Moi, je ne vais même pas forcer pour l'aimer. Quand il m'a montré à quel point lui m'aimait, puis à quel point moi, je ne l'aimais pas, là, j'ai comme, ça a transpercé mon cœur, puis là, j'ai dit, pardon, Seigneur. Là, j'ai vu mon péché. Mon péché, c'était pas tous mes petits péchés, c'était pas ça qui était important. Mon péché, c'est que je ne l'avais pas aimé. Que Dieu était amour, puis moi je ne l'avais pas aimé. Je n'avais pas répondu à mon Père comme il aurait dû, comme il s'y attendait. Parce que lui, il m'aime. Mais moi, je m'en foutais. Je vivais carrément hors de lui. Et à partir de ce moment-là, quand j'ai réalisé ça, ma vie a été complètement transformée. Je n'ai plus jamais été le même. Je ne pouvais même plus vivre de la même façon. Parce que moi, avant, c'était mes amis qui étaient en premier, c'était mes études, c'était ma famille. Puis Dieu en dernier. Mais là, c'était comme Dieu était venu dans ma vie. L'amour était venu dans ma vie. Parce que j'en avais pas de vrais amis. Je sentais qu'il n'y avait pas personne qui m'aimait vraiment, mais je ne savais pas que moi-même, je n'aimais pas vraiment personne non plus. Ça dit que dans la parole, l'apôtre Paul, il dit, on était haïssables, puis on s'haïssait les uns les autres. On n'était même pas qu'à semer. J'essayais d'avoir des amis, mais moi-même, je ne les aimais pas. C'était impossible. Mais quand Jésus est venu, lui, il sait comment aimer. Lui, il nous aime. Quand il s'est révélé, ça a été comme de la lumière vive qui a rentré dans ma vie. Ma vie a été changée, transformée. Puis mon seul désir après ça a été, Jésus, je veux t'aimer. Il y avait un amour pour Dieu que je n'avais jamais connu avant. C'était pas là. Dès le moment qui s'est révélé à moi, cet amour-là était là. Parce que là, j'avais demandé pardon pour ce manque d'amour-là. Puis là, c'est comme des flots qui coulaient dans mon cœur. Là, c'est comme, Seigneur, je veux vivre juste pour toi. Je te donne tout. Je veux vivre pour toi. Il n'y a personne d'autre comme toi sur terre. Là, je le réalisais. Là, je voulais vivre pour lui. Mais Dieu est premier. Dieu est premier. Dieu veut avoir la première place dans notre vie, chercher premièrement le royaume. Dieu veut avoir la première place, le premier amour de notre cœur, c'est Dieu. Mais pour ça, il faut que tu lui donnes du temps. Il faut que tu lui donnes. Si tu n'as pas de place pour Dieu, si tu ne mets pas Dieu dans ta vie, un temps dans la journée où c'est Dieu qui passe en premier. Dieu n'est pas ton Seigneur, Dieu n'est pas ton roi. Dieu, il n'est pas aimé par toi. J'avais mes études, j'ai continué à travailler, mais j'ai appris à mettre Dieu en premier. Quand je faisais mes études, c'était Dieu en premier. C'était la parole de Dieu, c'était... Je courais après Dieu. Je sautais des cours des fois, puis je m'en allais seul, puis j'allais prier, j'allais lire ma Bible. Parce que il n'y avait rien au monde qui égalait ça. Ce Dieu d'amour-là, ce Dieu qui m'aime à la folie, Jésus nous aime tellement qu'il a donné sa vie pour nous, il n'y a rien pour égaler ça. Il n'y a absolument rien. Si on lit dans Luc, chapitre 14, il y a une autre parabole que Jésus a donnée, qui concerne aussi la fin des temps, qui concerne le temps qu'on vit. Luc 14, versets 15 à 24. Un de ceux qui étaient à table, après avoir entendu ces paroles, dit à Jésus, « Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. » Et Jésus lui répondit, « Un homme donna un grand souper, et il invita beaucoup de gens. À l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux conviés, « Venez, car tout est déjà prêt. » Mais tous, unanimement, se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, « J'ai acheté un champ. » Et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. Un autre dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. Un autre dit, je viens de me marier. C'est pourquoi je ne puis aller. Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison irrité dit à son serviteur, va promptement dans les places et dans les rues de la ville. Et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. Le serviteur dit, Maître, ce que tu as ordonné a été fait. Il y a encore de la place. Et le maître dit au serviteur, Va dans les chemins et le long des haies, et ceux que tu trouveras, contrains-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie. Car je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon souper. Aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon souper. Ça, c'est une image d'aujourd'hui. Jésus nous confie un festin. Le royaume de Dieu, c'est le Saint-Esprit présent au milieu de nous. Ça dit que c'est la paix, la justice et la joie par le Saint-Esprit. C'est maintenant. Il y a un festin. Pour ceux qui s'approchent de Dieu, il y a un festin de préparer par le Saint-Esprit. C'est pour nous. Ça dit que tout est déjà prêt. Jésus a tout payé. Il a tout accompli. Mais, il demande du temps. Le premier dit, « Oh Seigneur, je viens de m'acheter un champ, j'ai pas le temps. » L'autre dit, « Je viens de me marier, j'ai pas le temps, Seigneur. » L'autre, « Je viens de m'acheter un char nouveau, j'ai pas le temps. » « Je viens de commencer des études, là, j'ai pas le temps, Seigneur. » « J'ai un nouveau travail, là, ça me prend beaucoup de temps. » J'ai pas de temps, Seigneur. C'est grave, mais c'est très grave. Parce que le Seigneur dit, aucun de ces hommes qui ont été invités. Le Seigneur, son amour est pour tout le monde aujourd'hui. Il révèle son amour. C'est son évangile est révélé partout, est annoncé partout. L'invitation est là pour tout le monde. Mais c'est notre choix de dire oui et de prendre position pour Jésus. De dire, est-ce que je te mets en premier? Ou est-ce que je mets mes occupations personnelles en premier? C'est sérieux comme ça. C'est une question de vie ou de mort. C'est une question, est-ce que je vais être avec Jésus pour l'éternité ou est-ce que je ne serai pas avec Jésus pour l'éternité? Si je mets mes préoccupations en premier, ça dit bien, celui qui voudra gagner sa vie va la perdre. Je n'ai pas le choix. Le Seigneur, il révèle son amour. Mais là, en même temps qu'il révèle son amour, il révèle notre manque d'amour. Il nous révèle... « Hey, t'es pas à l'auteur pantoute. Tu m'aimes pas pantoute. » Là, il n'y en a qu'une solution. Pardon, Seigneur. C'est de s'humilier, de dire, « Oui, Seigneur, c'est vrai. Pardon, Seigneur. Je veux te mettre en premier. Je veux que tu sois en premier. » Pour avoir cette humilité-là, de le dire une fois, puis de dire, « Seigneur, Je te donne ma vie. Je te mets en premier. C'est toi qui dois avoir la première place. Je te veux, toi, pour l'éternité. Car si je me garde ma vie, ça dit bien, celui qui voudra gagner sa vie va la perdre. Celui qui voudra gagner sa vie en travaillant, en faisant des études, en faisant toutes sortes de choses, il va la perdre. Puis c'est sérieux parce que on est bien plus avancé dans la fin des temps que l'était l'apôtre Pierre, l'apôtre Paul. Les jours sont comptés. On ne sait pas quand est-ce que le Seigneur va revenir. Mais c'est très proche. Puis c'est pas le temps de jouer, de penser, « Oh, j'ai la vie devant moi. » C'est pas vrai. C'est un mensonge. Moi, j'ai donné ma vie au Seigneur à 18 ans, puis je ne l'ai jamais regretté. C'est la chose la plus merveilleuse. Ça a été la journée la plus belle de ma vie. Puis ça n'a pas été qu'une journée. Ça a duré toujours depuis ce temps-là. J'allais au cégep à Sainte-Foy, à l'Université Laval, à Québec, après. Mais je marchais dans la rue, puis je savais que le Seigneur était là. Sa présence était là. Parce que j'avais dit oui à ton amour. J'avais ouvert mon cœur, puis j'ai dit, « Seigneur, je veux ton amour. Cet amour-là, elle est tellement merveilleuse que je veux vivre juste pour toi maintenant. » Puis j'avais l'impression que je me tassais quand je m'en allais sur le trottoir, je me tassais parce que j'avais l'impression que le Seigneur était là. Je laissais toujours un espace pour marcher. Parce que j'avais l'impression qu'il était là. Il était en esprit présent. Mais dans mon cœur, moi qui avais toujours... J'avais été élevé dans les écoles qui disent que Dieu n'existe pas, puis il n'y a plus de création, c'est juste l'évolution. Je doutais moi-même de Dieu, mais cette journée-là, quand il s'est révélé à moi, j'avais plus de doute. Là, je savais que je ne sais pas rien que Dieu existe, mais je sais surtout qu'il m'aime. Puis il m'aime tellement qu'il a donné son Fils à la croix pour moi, qu'il a envoyé Jésus mourir pour moi sur la croix. Puis ce Jésus-là, il vaut la peine d'être suivi. Parce qu'il n'y en a pas d'autre personne que lui. Il n'y a pas d'autre Seigneur sur la terre. Il n'y a pas d'autre nom par lequel on peut être sauvé que par Jésus. Puis ça vaut la peine de tout mettre pour lui, parce qu'on ne regrette jamais. On ne regrette jamais d'avoir mis Jésus en premier dans notre vie. Ça, c'est le témoignage que je peux vous laisser. C'est prenez le temps pour Jésus. Si vous dites que vous connaissez Jésus, prouvez-le. Mettez du temps pour sa parole. Mettez du temps dans la prière à chaque jour. C'est quelque chose qu'on doit faire à chaque jour parce que c'est notre bien-aimé. Jésus, c'est la personne qu'on doit aimer le plus au monde. Avant toutes les personnes qu'on aime, imaginez si vous avez quelqu'un que vous aimez beaucoup, votre meilleur ami ou votre chum ou votre fille, quoi que ce soit, votre mari. Si vous ne lui parlez jamais, si vous ne le rencontrez jamais, ça ne sera pas long qu'il ne sera plus votre meilleur ami. Que cette personne-là va vous délaisser parce qu'elle va dire, il ne m'appelle pas, il ne me parle pas, je ne le vois jamais, puis il dit que je suis son meilleur ami. C'est faux. C'est la même chose avec Dieu. On ne peut pas dire, Seigneur, rien que toi, on a chanté, il n'y a que toi. Mais on ne peut pas chanter ça, il n'y a que toi, si on ne met pas en premier dans notre vie. De façon pratique, à tous les jours, commencez la journée avec la prière, avec la parole de Dieu. C'est les deux choses de base pour n'importe quel chrétien. C'est, tu prends la Bible, puis tu lis les instructions qui ont été laissées pour toi. Parce que c'est plein de... Moi, je me rappelle, les premières fois que je lisais la Bible, je la dévorais. Parce que c'était... Je l'avais jamais lu avant.
C'était de la vie.
C'était vivant. C'est... J'avais l'impression que ça me sautait au visage. Tellement qu'il était vivant. Parce que j'avais été élevé catholique, puis pour moi, on ne m'avait jamais dit de lire la Bible. Mais là, quand on m'a dit, lis la Bible, c'est la parole de Dieu pour toi. C'était extraordinaire. Ça parlait. C'était des paroles vivantes. Dans ce livre-là, c'est Dieu qui a laissé un témoignage. C'est des paroles vivantes. Il faut prendre le temps de les entendre, de se mettre à l'écoute de la parole de Dieu. Puis de prier, prendre le temps de prier et de communier. Parce que le jour qu'on accepte Jésus, qu'on donne notre vie, le Saint-Esprit vient de notre vie. La présence du Saint-Esprit vient. Mais le Saint-Esprit, c'est une personne.
Puis il parle.
Il parle. Il veut être écouté. Il veut nous parler. On peut y parler, on peut y dire tous nos soucis, tous nos fardeaux, il va les écouter. Il va nous consoler, il va nous encourager, il va fortifier notre foi, Parce que la foi aujourd'hui, ça prend le Saint-Esprit pour être fortifié de notre foi. C'est lui qui va fortifier notre foi. Ça prend aussi le contact entre chrétiens. Parce que c'est souvent, quand tu es juste entouré de gens qui ne connaissent pas Jésus, si tu es tout nouveau chrétien, tu vas avoir de la misère à vivre ta vie. Tu vois, ça dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ça veut dire que les mauvaises influences, si tu es trop entouré de gens qui ne connaissent pas Jésus, puis tu es tout nouveau chrétien, ben, tu vas avoir de la misère parce que là, les gens vont dire, ben, c'est pas ça. T'es pas obligé de lire la Bible.
T'es un loser, t'es un perdant.
Ils vont te décourager de suivre Jésus. Le monde va te décourager de suivre Jésus parce que le monde va à l'opposé de Jésus. Vous savez, on peut pas être ami de Dieu puis ami du monde en même temps. La Bible, ça dit bien clairement. Si t'es ami du monde, t'es ennemi de Dieu. Puis si t'es ami de Dieu, t'es automatiquement ennemi du monde. Ennemi de la pensée du monde. Tu marches pas, tu peux pas marcher ensemble parce que le monde ne connaît pas Dieu. Le monde est. Vous n'avez qu'à écouter la télévision, puis vous allez voir tout de suite que ça ne parlera pas souvent de Dieu. Puis si ça en parle, ça va en parler en mal. Le monde ne connaît pas Dieu.
Ils n'ont pas de bonnes nouvelles.
Mais nous, si on a connu Jésus, ben c'est ça, on a une position à prendre pour prendre le temps de Dieu, le temps pour Dieu. Ça commence toujours par son amour en moi. Si je le laisse se révéler à moi, au travers de la parole de Dieu, si je laisse son amour m'envahir, ce ne sera pas difficile d'aimer Dieu. Ça va être facile. Parce que c'est son esprit en moi qui va agir. C'est son esprit en moi qui va me montrer quoi faire. Ça dit que l'esprit va même inspirer des prières, inspirer des louanges. L'esprit va créer en moi le vouloir et le faire. Parce que j'ai été touché par Dieu. J'ai reçu son amour. Hein, ça dit bien, l'apôtre Jean, il dit. Il m'a aimé le premier. Nous l'aimons parce que lui nous a aimé le premier. C'est son amour. Quand son amour nous touche, c'est facile de suivre. Ça se fait automatiquement parce que on reçoit le Saint-Esprit.
C'est lui qui le
C'est
fait.
sa force en nous. Mais si on essaye de le faire par soi-même, par notre propre force,
Ça marche pas.
ça ne marchera jamais parce que
On en paye.
on ne peut pas servir Dieu sans le Saint-Esprit. On ne peut pas servir Dieu par notre propre force. C'est impossible. On a besoin d'être touché par Dieu, de se laisser toucher par lui, de se laisser envahir de son amour, de laisser la parole de Dieu venir nous toucher. Et dire, Seigneur, montre-moi c'est quoi tu veux montrer dans cette parole-là, dans cette Bible-là. Parce que Dieu a des choses extraordinaires à montrer, à révéler à chacun de ses enfants. Il veut nous parler. Il est un père. Et nous sommes tous ses enfants. Et comme un père, il nous aime d'un amour extraordinaire. De tout son cœur, de toute son âme, de toutes ses forces. Puis ça vaut la peine de juste demeurer dans sa présence. Vous savez, c'est un apprentissage. Quand vous commencez à prier, vous allez commencer par 5 minutes, peut-être 10 minutes, même année, il va avoir une soif. Vous allez commencer à lire la Bible, quelques versets, même année, il va avoir une soif qui va venir.
Ou ça va toucher notre cœur.
Quand ça touche notre cœur, il y a une soif, puis là, tu as encore plus de goût. Moi, je me rappelle, je commençais quand j'étais tout nouveau, 5 minutes, 10 minutes, mais après ça, c'était vite, 1 heure, 2 heures. Puis là, je sautais des cours pour lire la parole parce que c'était trop bon.
C'est pas quelque chose de naturel, quelque chose de surnaturel que Dieu donne. On n'est pas fait pour être bon. La Bible dit, il n'y a pas un juste, pas même un seul, tous sont pécheurs, tous sont pervertis et privés de la bonté de la gloire de Dieu. Donc, on est tous des loups. C'est-à-dire que seul Dieu est le vrai God. Seul Dieu peut nous communiquer la vraie vie.
Amen. Alléluia. Donc, c'est ça. Si vous n'avez pas déjà donné votre vie au Seigneur, c'est le temps de le faire à soi. On va prendre un temps de prière ensemble. S'il y en a qui n'ont pas vraiment donné leur vie, ils n'ont pas été touchés par l'amour de Dieu. Vous ne connaissez pas à quel point Dieu vous aime. Ben, c'est le temps aujourd'hui d'ouvrir votre cœur et de le laisser venir. Dire, Jésus, viens me montrer ton amour. Viens te révéler à moi. Et si d'autre part, si vous avez déjà donné votre vie au Seigneur, ben, c'est le temps aujourd'hui de dire, Seigneur, je te mets en premier. Je veux que tu sois vraiment le premier dans ma vie. Je veux t'aimer de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force. Mais il faut que je te donne du temps. Prendre un engagement de marcher à sa suite.
Puis de l'écouter quand il parle.
C'est notre part. Dieu ne fera pas à notre place. Alléluia. Amen.